C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
RMC.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là, comme tous les soirs nous sommes en direct bien sûr RMC Sport News, à la radio, à la télé, dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là, comme tous les lundis, Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir les amis.
L'événement dans l'After ce soir, les gars, c'est Fred Hermel qui est là. Il est à Paris, le Fredo. Donc on va l'avoir en studio avec nous. C'était une petite surprise que je vous ai réservée. Il sera là tout à l'heure.
Mais non, il me dit plus rien visiblement.
Je pensais que le dos bloqué c'était psychosomatique, tu vois, que c'était.
Daniel a le dos bloqué. C'est pas l'événement du soir, mais Daniel
c'était lié à l'avenue de Fred.
Bravo Fred Hermel, bravo. Il me prévient pas quand il est à Paris.
Ah bah je pense qu'il voulait faire la surprise. Justement.
Bravo. Bah écoute.
Tu sais que les problèmes de dos c'est psychosomatique. Hein.
Bah, c'est pour ça, je te dis que je croyais que c'était lié avec la venue de.
Trop de responsabilité.
Psychosomatique, ah ouais, je te garantis que non. Putain.
Bon alors, avant et après Fred Hermel, Daniel veut parler de l'OM suite à la défaite d'hier soir. Pierre veut parler de Reims, puisqu'il l'a promis hier et qu'il a eu 24 heures de plus pour affiner son avis.
Alors ça, je vais te dire, ça m'intéresse beaucoup ça.
C'est vrai? Eh ben tant mieux.
Bah parce que c'est les clubs.
Ce qui m'embête, c'est que ça fait deux ans qu'on fait l'after et que c'est la première fois que tu me dis ça pour un avis.
Non, mais parce que là c'est on parle pas de ce genre d'équipe. Au fond, on aborde et il faut dire la vérité, c'est pas les équipes qu'on voit le plus jouer.
C'est ça.
Et mais tous ceux qui nous écoutent sont dans le même cas, à part vraiment les supporters de Reims. Et là, je pense que il se passe un truc qui mérite quand même d'être abordé.
Ouais.
Donc voilà.
On parlera du reste de l'actu du jour, notamment d'Antoine Griezmann et des déclarations de Deschamps du jour le concernant. Et puis, comme tous les lundis, les drôles de dames, évidemment, de 23h à minuit, tout à l'heure. Et puis, il y a de la Ligue 2 ce soir, Gazélec Racing Club de Lens. Alors, on n'a personne au stade ce soir. D'ailleurs, si vous êtes en Corse et que vous voulez être correspondant des RMC...
Les 0-0 du lundi, plus personne va y aller, dis donc.
Non, mais là, il y a 1-0.
Il y a 1-0 déjà.
1-0 pour le Gazélec.
Ouais, c'est pareil.
Déjà.
1-0 pour le Gazélec face au Racing Club de Lens.
Non, 1-0, c'est pareil.
Et on joue depuis 60. Non mais c'est une petite surprise quand même, Pierre, toi qui suis la Ligue 2 de près. Bon,
c'est jamais facile là-bas. Tu sais quoi, c'est une demi-surprise.
Demi-surprise, tu dis?
Ouais, c'est une demi-surprise. On en parlait bien sûr avec Fred là-haut qui regardait le match. Lensois qu'il est.
Ah, Fred Hermel.
Oui, Fred Hermel, ouais. Bien sûr.
Fred, c'est pas spécialiste du Gazélec.
C'est peut-être parce que Fred Hermel est là ce soir que Lens va perdre.
Non mais je lui disais, ça sera pas facile de gagner là-bas.
Il vient chouiner tout à l'heure.
En tout cas, on suit le match bien sûr et on vous tient informé dès qu'un but est marqué. Le 32-16 est ouvert, appelez-nous, n'hésitez pas. Le hashtag RMC Live plus Direct Studio bien sûr. Direct Studio, c'est sur l'appli gratuite RMC Sport. Vous la téléchargez, vous appuyez sur la petite radio en haut à droite et vous pouvez nous envoyer vos messages. Allez, c'est parti, l'OM pour démarrer l'after ce soir. Jingle, Riolo.
Johan va venir pour exprimer un avis qui, on le sait à l'avance, sera faux.
Aucune chance, le mec.
C'est qui?
Johan.
Johan, un auditeur, il est pauvre.
Qui avait aucune chance, du coup.
Avant de commencer. Il avait même pas pris la parole, c'est vraiment infâme. Pourquoi tu voulais parler de Marseille ce soir alors qu'on en a quand même pas mal parlé hier soir?
Non, c'est pour essayer d'envisager un petit peu la suite. Alors, en préambule, je sais qu'on va me dire, tu vas tirer des enseignements ou tu vas essayer de tirer quelque chose d'un match contre l'OM alors que tu passes ton temps à dire que le match contre l'OM est à mettre à part. Oui, alors vous allez peut-être trouver ça con ou bizarre, mais il est à mettre à part en cas de bonne performance. Parce qu'on peut estimer que logiquement ce match motive d'une certaine façon qui fait que tu es dans un état, on va dire, propre à te sublimer, qui fait qu'il ne reflète pas complètement la réalité. Là, au-delà du match de d'hier soir, qui en plus a été joué contre un Paris Saint-Germain affaibli, pas au complet, pas au top mentalement, avec certes une envie de se venger des mésaventures en Ligue des Champions, mais bon, on a bien vu sur la première période que franchement l'équipe, elle était, ça se dit pas, mais je le dis, bousculable. Et c'est plutôt dans le contexte global de ce qui s'est passé depuis la reprise à l'OM que c'est plutôt au sujet de ce contexte que j'ai envie d'exprimer. L'OM fait pas une bonne saison, quoi qu'il en soit par rapport aux objectifs annoncés, entre les coupes, les trois, League, France, Europa League, championnat, mauvaise première partie de saison. Le problème avec les cadres, qu'on a résolu en les mettant dehors et en faisant jouer d'autres mecs. Les résultats meilleurs qui ont permis à l'OM de revenir à la quatrième place, n'oublions pas qu'ils l'ont été contre des petites équipes. Alors, ok, dans la première partie de saison, c'est vrai que même contre les petits, ça a été compliqué. Bon, encore heureux que l'OM s'est un peu redressé, parce que sinon l'OM faisait 15e. Moi, je veux bien. Mais là, on aurait été au-delà de la catastrophe, donc il fallait quand même qu'il se passe un truc. Balotelli arrive, immédiatement ce que je redoutais se produit, enflammade autour de ce joueur, on lui met le jet à dispo pour qu'il arrive quand il faut, qu'il contamine pas les autres. Il est déjà dans les célébrations, je parle pas de celle fake qu'on avait annoncé hier, mais dans les autres, ça y est, c'est déjà la vedette, le mec il a depuis 3 semaines, c'est déjà la vedette de l'OM. Je sais que l'OM était en mal de vedette, enfin bon, quand même se livrer comme ça corps et âme à... Ouais, on a l'impression que c'est le mec qui, la première nana qui passe, il lui offre son cœur. Donc calmez-vous. Et surtout,
j'ai eu peur.
Finalement, ça ne résout rien des problèmes de l'OM. Et par rapport à ce qui se passera au mois de juin, ça en annonce d'autres. La Ligue des Champions, ils vont pas la faire. L'Europa League, bon, bah, ce sera une consolation. Donc la saison sera ratée.
Oh, l'Europa League, il y a de bonnes chances quand même qu'ils y en soient.
Ok. Qu'est-ce que va faire l'OM? Les questions, en fait, que je pose, c'est est-ce qu'ils sont plus avancés maintenant qu'ils ont gagné les quelques matchs et qu'ils vont choper l'Europa League que avant dans l'état de catastrophe qui aurait peut-être valu un grand chambardement? Je crois qu'il faut un vrai gros coup de balai au niveau des joueurs cadres qui sont fatigués et qui sera très dur de récupérer. Au niveau de l'entraîneur, qui, je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a une difficulté, un match, machin, il ne s'adapte jamais, ni tactiquement, ni dans la préparation de l'événement. Il passe toujours au travers. Donc là, faudra également se poser une question, parce qu'on en a un peu moins parlé là ces dernières semaines, comme les résultats ont été meilleurs et tout.
Mieux, ouais.
Mais hier, on a vu, le PSG était affaibli, il y avait matière à faire quelque chose. D'ailleurs, franchement, je suis sûr que la majorité des supporters de l'OM s'est dit « Ah, s'il y a peut-être un moment où faire quelque chose, ben, c'est... » Non. Ils ont... Franchement, je les ai trouvés pas du tout à la hauteur de l'événement, une fois de plus. Et je suis content d'avoir entendu Dimeco aujourd'hui, qui pensait la même chose, et quand, sur l'OM, j'aime bien être d'accord avec lui.
Après, c'est plus, oui, il a une connaissance de ce club. Mais après, c'est plus sur les intentions que les joueurs ont montrées, parce que tactiquement, il a laissé son système où il avait envie, on a vu en première mi-temps, envie d'aller un peu les chercher haut, etc. Mais j'ai l'impression, moi, que les joueurs n'ont pas été capables de le faire.
En gros, il y avait une mise en place, mais pas d'intention au-delà de la mise en place, pas de dépassement de fonction. On va rester.
Tu veux dire qu'il n'y avait pas un réel objectif d'aller faire
surtout,
mal.
Et puis surtout, dès que le PSG a un peu compris qu'ils ont appuyé leurs espèces de lignes soudées, elles ont explosé. À un moment, franchement, tu regardais, tu disais, mais heureusement que le PSG n'est pas au complet. Marseille prenait la valise hier. Il prenait la valise plus que d'autres équipes de Ligue 1, ce qui est pas normal. C'est censé quand même être une grosse équipe. Et c'est pas une grosse équipe parce que tu as des joueurs qui ne jouent plus ceux qui sont censés être bons. Et ceux qui sont sur le terrain... Camara, il est très jeune, il deviendra peut-être un jour bon, mais un club comme l'OM peut pas se reposer sur un défenseur de stage là, pas encore confirmé. Il devrait avoir des joueurs confirmés, ils ont pas derrière, ils en ont pas. Leur charnière, elle est toute jeune. Le milieu de terrain, on dira ce qu'on voudra, mais Sanson, j'aime beaucoup, je le défends tout le temps, ce joueur. C'est un joueur de Ligue 1. Maxi Lopez. Bon. Voilà. Si certains veulent croire qu'il est effectivement, observé par les
plus grands.
Thauvin, une fois de plus, a montré que quand il y a un gros match, il peut avoir le titre de champion du monde parce qu'il était dans le groupe, Thauvin, dès qu'il y a une difficulté, il est plus là. Germain, comme a dit un supporter de l'OM qui a appelé hier, ça devrait pas être lui le mec à qui on reproche rien parce qu'il se bat, il fait ce qu'il faut et tout, mais il devrait pas vraiment être titulaire à l'OM, ce gars-là. Voilà. Et t'as Ocampos, le vaillant guerrier, toujours pareil, mais bon, c'est marrant parce que souvent, moi, il m'arrive de le trouver plutôt bon, je le défends pour son, mais à chaque fois, je le regarde quand il joue contre le PSG, mais il passe jamais. C'est mort. Et même face à Dagba ou même des mecs, ça passe pas, quoi.
Ouais, parce
ça
que c'est là, pas. C'est là où il atteint ses limites.
Il a une vraie limite. Et au mois de juin, face à quoi va se retrouver l'OM? Face à un vrai mur de difficultés.
Est-ce que tu es d'accord avec Daniel ce soir, Pierre?
Oui, sauf un truc, c'est quand tu dis que finalement les résultats récents, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Je pense que
c'est un redressement.
Ouais, voilà. Je pense quand même qu'il vaut mieux que l'OM soit là pour gérer la, son prochain mercato, c'est-à-dire
alors,
avec
alors peut-être une Europa League. Tu seras d'accord, il faut se méfier que ça ne cache pas la réalité.
Ah oui, alors là, si effectivement l'OM se dit on a accroché l'Europa League, donc voilà. On repart comme ça parce que tout va bien, effectivement là je suis d'accord avec toi, si voilà. C'est ce que tu voulais dire, ouais, je te rejoins. Si ça voulait dire que une place en Europa League ne changera rien,
il vaut mieux qu'il la chope.
Ouais, ne serait-ce que pour pouvoir se débarrasser de certains joueurs pour en amener d'autres qui vont être attirés s'il y a une Europa League.
Mais quoi qu'il en soit,
il y a des choses, il y a un bon chantier.
Il y a un vrai chantier, gros chantier. Et avec les chiffres qui sont sortis de la DNCG la semaine dernière,
ouais, ça va pas être si facile que ça.
Comment ils vont recruter, qui vont recruter, va falloir être inventif, hein, et comme ils le sont pas depuis des années au niveau du recrutement.
C'est là que t'es content quand tu as fait tout un travail en amont de scouting, de recrutement, etc., de visionnage, pour aller chercher des joueurs ou des coups intelligents, même quand t'es l'OM.
Vous appelez au grand remplacement à Marseille. Pour employer des termes.
En tout cas, cette expression.
Non, mais tu es sûr de. Il va falloir qu'il y ait une page qui se tourne. Je veux dire, gros chantier,
ça suffit largement. Et le premier dossier, c'est l'entraîneur. Ne serait-ce que celui qui est allé à Bordeaux, qui est à peine arrivé, immédiatement, tu sens qu'il y a un truc. Alors attention, ça va être compliqué pour Sousa à Bordeaux parce que il a pas les joueurs pour ce qu'il a envie de mettre en place. Mais au moins, il a des idées claires, tu vois que tu sais où il va aller. Et même avec des jeunes joueurs, des joueurs moins connus, des mecs à trois, au moins il y aura un style, tu vas comprendre quelque chose. Là, avec Garcia, on va pas tarder à plus rien comprendre. Enfin, moi, ça fait longtemps que je comprends.
Renaud est avec nous, supporter de l'OM. Il veut justement parler de Garcia, je crois. Salut, Renaud.
Oui, bonsoir, Gilbert. Bonsoir, Pierre. Et bonsoir, Daniel.
Salut, Renaud.
Alors,
salut.
Est-ce que tu es d'accord avec Daniel, toi?
On peut être que d'accord avec Daniel Riolo, la majorité du temps, pour pas dire 90% du temps.
C'est pas obligatoire.
C'est une vieille technique d'auditeur, qui
nous appelle de dire je suis d'accord avec Daniel,
quand tu entends le jingle de Daniel tout à l'heure, forcément, t'es obligé de commencer comme ça, sinon tu parles pas.
C'est pas une technique d'auditeur, on a la chance en France d'avoir Daniel Riolo, donc après, on est très content de l'avoir. Et qu'on l'ait le plus longtemps possible. Sincèrement, Daniel a raison, quoi. Je veux dire, moi, j'ai regardé le match, bien évidemment, et Marseille fait preuve de bonne volonté, quoi. Marseille, c'est l'élève laborieux qui arrive à toper un 11 sur 20 de temps en temps sur une copie, mais qui situe entre 7 et 9 sur 20, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus, Thauvin?
Donc, tu sous-entends qu'avec 10 de moyenne, tu peux être quatrième du championnat, alors?
Bah
oui, parce que c'est la Ligue 1. Enfin, je veux dire, la Ligue 1, c'est pas la première ligue ou c'est pas la Ligue 1. Je veux dire, on n'invente rien, mais quand je dis ça, c'est aussi clair que de dire que.
Bah, on le voit même par rapport au PSG, Renaud. Hein.
Bien sûr.
Bah voilà.
Et Daniel, vous aviez tout à fait raison parce que, effectivement, avec un Paris Saint-Germain qui était amoindri, avec des joueurs clés qui étaient absents, notamment Cavani, puis Neymar, eh bien, on arrive à avoir un Marseille qui est laborieux, qui sait de faire ce qu'il peut, mais l'attaque, moi je suis désolé, j'en avais parlé il y a quelques semaines, je me souviens, en disant que je croyais pas trop à Balotelli, dans le sens où, bon d'accord, c'est un super joueur, etc.
Ah non, moi j'y crois pour 6 mois, moi j'ai dit qu'il allait les mettre les buts, qu'il allait devoir redonner le sourire à l'OM. Moi j'y croyais complètement, c'est à long terme que je veux pas y croire.
Voilà, c'est ça. Et moi, je dis que bon, sur les 6 mois, peut-être épisodiquement, mais là, hier, malheureusement, il a été absent, comme l'a été Thauvin. Et puis, quand on regarde l'équipe, voilà, elle est pas très talentueuse, quoi. C'est des joueurs qui font preuve de bonne volonté. Et puis, les joueurs qui sont un peu techniques, mais qui malheureusement sont pas constants, comme Dimitri Payet est sur le banc. C'est assez compliqué. Et moi, je veux dire, voilà, je m'attendais à une saison un petit peu difficile. Je suis pas spécialement heureux à l'idée de se qualifier pour l'Europa League parce que je me dis pour quel résultat. Quand on voit la densité d'un tableau dans l'Europa League, hein, quand on voit cette année Chelsea et comme de très très grosses équipes, donc je veux dire, je vois pas ce que pourrait faire Marseille l'année prochaine en Ligue Europa avec l'effectif actuel. Moi, je veux dire, ça c'est à la limite, c'est secondaire la qualification pour l'Europa League. Le plus important, c'est effectivement, comme vous le disiez, Daniel, c'est le chantier, c'est un nouvel entraîneur, de nouvelles idées, de la motivation, des joueurs qui ont du talent, un projet, une vision. Là, on n'a rien. Quoi. Je veux dire, voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un peu de mieux parce que Marseille a réussi à gagner quelques matchs, effectivement. Mais c'est pas, c'est pas très satisfaisant. Et comme vous le dites, Daniel, depuis des années, on a besoin d'un Olympique de Marseille fort dans les résultats et dans le jeu.
Ça, oui.
Comme on a besoin d'un Monaco fort, d'un Lyon fort, d'un Paris Saint-Germain fort pour que la Ligue 1 soit quand même attractive. Un Bordeaux aussi, Bordeaux-Saint-Etienne aussi, évidemment, qu'on n'oublie pas. Mais là, je veux dire, on a un Marseille qui est apathique, donc c'est quand même assez triste. Et bien sûr, l'Olympique de Marseille, c'est un des plus grands clubs français, mais ce n'est pas une grande équipe. Et ça fait un peu trop longtemps que ce n'est plus une grande équipe.
Bah écoute, Renaud, le message est clair. Ouais. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée.
Ciao.
Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Pierre.
Salut,
ciao.
Salut Renaud, à bientôt. Quel pessimisme, dit Nicolas sur Direct Studio. À quelle heure on se met la corde? Il est supporter de l'OM, hein, Nicolas.
Il s'agit pas de se mettre la corde, il s'agit de bouger et que les gens qui sont aux responsabilités fassent face à ces difficultés, prennent les bonnes décisions. Il s'agit pas de le pendre.
Prévoir l'accident, c'est l'éviter. Donc c'est pas mal aussi d'anticiper un peu ou en tout cas d'en parler. Objectivement, ouais, c'est pas interdit. Hein.
Et puis qu'est-ce que
comme tu parles beaucoup du pessimisme et de l'optimisme, j'ai entendu une phrase récemment qui m'a beaucoup fait marrer.
Ah, vas-y.
C'est Billy Wilder, grand réalisateur hollywoodien, qui avait dit en Allemagne dans les années 30, les pessimistes, ils ont fini à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. C'est très drôle, je trouvais que c'était très drôle.
Oui, bon, ouais. Je peux peut-être te trouver autre chose qui va dans l'autre sens. Bon,
non.
Je chercherai.
Je mérite réflexion.
Je chercherai. Et puis Beto nous dit, attendez, Rudy Garcia est satisfait hier soir. Il a battu toutes les équipes entre la 10e et la 15e place. Bon, voilà. Mais après, s'il finit sur européen, écoute, moi je sais pas, on verra.
Non, la saison sera l'échec. McCourt avait dit podium. Hein. Cette année, l'OM devait faire podium. En plus, dans la continuité de l'année dernière, qui était une saison emballante, vraiment où il s'est passé un vrai truc comme Marseille aime. Cette année, tu peux pas finir quatrième avec une saison si triste que ça. Tu seras dans position d'échec.
Enfin, c'est pas encore quatrième. Hein.
C'est pas une saison sur trois, une saison sur quatre. Hein,
la vie.
Ouais, en plus, c'est pas. Non, maintenant, c'est voir comment il va gérer. Il peut faire, d'après toi, Pierre, toute la fin de saison maintenant avec Payet, Gustavo sur le banc. Honnêtement.
Non, moi je pense qu'il a intérêt de temps en temps à quand même les intégrer. Après c'est la capacité de ces garçons-là à accepter. Alors peut-être pas Gustavo, mais plus Payet à accepter ce rôle-là.
T'imagines Strootman, le salaire que tu lui donnes, le mec il est remplaçant. Luis Gustavo, lui et encore il est arrivé à la limite de Luis Gustavo. Tu peux sortir l'excuse de bon il est fatigué, bon c'est.
Ouais, oui, il a été trimballé tactiquement à plusieurs postes,
mais
etc.
Strootman, lui vient d'arriver. Statut de vedette, énorme salaire. Et qui sont tous sur le banc. Waouh.
Ouais, non, c'est c'est pas simple à gérer.
Si ça, c'est pas la preuve d'un échec, excuse-moi.
Bah, c'est les résultats aussi qui vont parler. S'ils continuent à avoir des résultats comme ces derniers temps, là
tu joues
depuis 5-6 matchs.
Tu fais quoi? Tu mets quelle équipe?
Ouais, pour moi, t'es obligé de continuer avec l'équipe qui a bien fonctionné. Non. Pour moi, tu continues.
Tu remets la même qu'au Parc.
Oui, parce que
c'est qui a gagné récemment.
Je vous signale que c'est celle qui a gagné il y a une semaine. Avant le match du PSG, tout le monde disait « Ah ouais, mais là, il va remettre Strootman, Luis Gustavo, parce que c'est un gros match. » Tu parles, il n'a remis personne.
Non, moi, je pense qu'il fallait qu'il continue avec cette équipe-là.
Le prochain match, c'est contre Angers.
Je pense qu'il avait raison, mais c'est le terme, en fait, que je me demande. Parce qu'au bout d'un moment, oui, c'est vrai.
Ah oui, peut faire peur. Peut-être qu'on peut lui mettre Luis Gustavo, du coup.
Tu vas faire jouer Luis Gustavo sur le côté. Oh, le pauvre, il est déjà trimballé.
Tu veux pas avoir une individuelle sur T?
Oh bah c'est génial, si Gustavo fait une individuelle sur T, c'est génial pour Flavien T. Hein.
Allez, dans quelques instants, on passe au sujet suivant. Après l'OM, bien sûr, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, le 32-16 est toujours là. On va parler de la course à l'Europe, avec Reims notamment. Et puis toutes les questions Ligue 1 du soir, on en a quelques-unes ce soir à balayer. Par exemple, concernant Areola, faut-il faire désormais confiance à Areola au PSG, voire même au poste de numéro 2 en équipe de France? On va en reparler, puisque Deschamps s'est exprimé aujourd'hui. Et puis cette question à laquelle on répondra tout à l'heure, y a-t-il eu faute de goût de Mbappé hier sur le coup du péno avec Di Maria? On n'en a pas parlé hier soir, mine de rien, parce qu'on a un peu évacué ce truc-là, mais ça a fait débat.
Oui, si c'est Neymar qui laisse pas le péno, je pense que
garde tes arguments.
Ça peut faire l'ouverture de d'Anne-Sophie Lapix.
Ce sera tout à l'heure.
Là, comme c'est le génie français, c'est pas pareil.
1-0 pour le Gazélec, toujours face au Racing Club de Lens. On joue depuis 77 minutes dans ce match. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, nous sommes là, c'est l'after bien sûr avec vous, avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo ce soir, toujours 1-0 pour le Gazélec hein, face à Lens. On suit ce match de près, 82e minute, match tendu. Et 1-0 pour l'équipe corse face au Ch'ti de Fred Hermel qui sera avec nous tout à l'heure. On a les canons ce soir dans l'after. Vous savez que l'équipe de France débute sa phase de qualif pour l'Euro 2020. Bon, ce soir on va pas parler des bleus, enfin assez peu. Hein, il y a eu rassemblement ce matin. D'ailleurs, vous avez vu que N'Golo Kanté est arrivé à Clairefontaine à 6h30 du matin.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, pourquoi je sais pas.
Mais on ne sait pas, on ne sait pas.
Il est arrivé à 6h30.
Il pouvait pas être en retard.
Et puisque tu parles de lui, c'est bizarre la saison d'N'Golo Kanté quand même.
Il est pas, pour moi, il est pas au poste où il peut.
Ça c'est vrai.
Il peut être optimal.
Et la saison de Chelsea est aussi ce qu'elle est.
Et la saison de Chelsea est un peu bizarre.
De rien,
aussi,
on en a un peu parlé au début de la saison que pourraient faire les champions du monde, mais globalement.
Ah bah c'est compliqué. Hein. C'est toujours compliqué.
Au fur et à mesure, avec des plus ou moins bonnes périodes et tout ça, est-ce que t'en as un seul qui est en train vraiment de
Griezmann réussir. Jusque-là était pas mauvais avec l'Atlético.
Ouais, mais moins bien que.
Pardon. Ouais, je sais.
Moins bien que d'autres.
On est peut-être un petit peu aveuglé par le match contre la Juve là, enfin le non-match de sa part et de la part d'Atlético. Mais jusque-là,
moins
il
bien
était
quand même que la saison dernière. Ouais. Non.
Après, je suis en train de réfléchir. Hugo Lloris,
il nous dira. Il nous dira ce qu'il en pense.
Ouais, mais il fait une bonne saison.
Pas pareil, oui, c'est pas pareil.
Il nous dira ce qu'il en pense tout à l'heure, Julien Laurence de N'Golo Kanté. Parce que moi, je vous parlais de l'équipe de France. Pourquoi? Parce que toute la semaine dans l'after, on vous offre des places pour le match France-Islande. Alors France-Islande, c'est lundi de la semaine prochaine. Donc lundi prochain, on aura une soirée exceptionnelle puisqu'on n'aura pas d'after de 2 heures, mais le match plus l'after derrière. Donc pour ça, il suffit d'aller sur le compte Twitter de l'after @afterRMC et vous verrez, vous pourrez gagner vos places pour le match France-Islande. Bonne chance à vous. L'avis de Pierre ce soir, il concerne le stade de Reims. Mais oui, vous ne rêvez pas, supporter rémois. C'est votre heure. Jingle Ducrot.
On le préfère ou on préfère ailleurs. Ça, c'est une opinion et c'est une opinion.
Bah ouais,
j'ai bien fait d'hésiter. Ouais.
Des fois, t'as des moments de fatigue, c'est normal. Ça arrive à tout le monde.
Un petit peu.
Reims, carrément, un avis.
Ouais, vas-y, tire-nous encore.
Carrément. Avec qui on parlait de ça? Ah bah c'est toi, Gilbert. Ah ouais. Gilbert qui déteste le corner à la rémoise.
J'ai l'intérêt, mais bon.
De quoi?
Bah, Gilbert, il aime bien quand on
joue un corner à la rémoise.
Gilbert, il aime bien quand on met dans la boîte, tu sais, bim.
En fait, le corner à la rémoise, c'est une combinaison, parce que l'autre fois, on en parlait avec Pierre, c'est une combinaison qui a été inventée par Raymond Coppa. Parce que comme Coppa était petit,
oui, mais ça venait de Reims.
Il prenait jamais le ballon de la tête. Oui. Donc en fait, il avait mis en place un truc avec deux de ses collègues. Un qui donnait le ballon à deuxième, qui ensuite a donné à Coppa qui frappait.
Oui, bah.
Sauf que depuis qu'il n'y a plus Coppa, tout le monde fait des corners à la rémoise, mais ça sert plus à rien. Arrêtez.
Non, j'ai jamais véritablement aimé la façon de jouer le corner comme ça, mais il y a eu des moments où
s'il y a une combinaison mise en place ou quoi.
Bah t'as des équipes qui pouvaient le faire, c'est le Barça par exemple à la grande époque où dès qu'ils avaient
le ballon dans
ces zones là,
ils
ont une telle expertise dans les petites zones comme ça pour dans les petits espaces que ça marchait, mais faut être compétent hein, techniquement pour la jouer à deux
pieds au bout. Et est-ce que tu te souviens du coup franc tiré en faisant la petite passe à un mec qui était juste à côté de toi, qui était à un mètre de toi, il bloquait le ballon mètre devant toi.
Attention,
et après
Daniel,
tu tirais le coup franc. Baggio, à un moment, c'est la mode en Italie dans les années 90.
Tu te décalais par rapport au mur et tu t'ouvrais un angle de frappe. Sauf que les gardiens se sont...
Pourquoi plus personne le fait?
Alors, je vais te dire, les gardiens se sont adaptés, ça date un petit peu ce dont tu parles.
Années 90.
Les gardiens se sont adaptés et maintenant, ils placent leur mur avec un joueur dans le mur qui est décalé par rapport à avant. Donc, il faudrait que tu le décales de 2 mètres pour le ballon. Bon, c'est plus compliqué.
Tu me donnes une idée là, parce que là on a des on a pendant 15 jours des afters de 2 heures, on va refaire une spéciale coup de pied arrêté. Moi j'en peux plus, en Ligue 1, personne ne fait plus rien sur les coups de pied arrêté. Plus personne ne prépare les coups de pied arrêté. T'as pas de combinaison, c'est mal tiré.
Le vrai truc, c'est tout ce qui est coup franc pour mettre
corner,
ballon dans le paquet. Que ce soit à ce point mal tiré, c'est une aberration quand ça devrait être au casse de but à chaque fois.
Ça c'est dingue.
Il suffit d'un seul mec technique pour mettre
un bon pied.
Te mettre le ballon dans la surface.
Il te faut un bon pied qui sache tirer ça.
Sauf que le bon pied, Pierre, c'est un vrai souci. Je regardais Lyon-Montpellier hier. Dans cette équipe de Montpellier, t'as évidemment, et ça saute aux yeux, ça frappe.
Mollet.
C'est le contraste, c'est Mollet. Dans combien d'équipes t'as un mec comme ça? Le mec, quand il reçoit le ballon,
il y en a
tout
pas.
Est différent. Hmm alors pas, après, tu sais, c'est comme beaucoup, à l'époque, mais... à Nivet, à Troyes et tout. Alors après, peut-être que si tu montes d'un niveau, il aura dans la gestion de l'espace-temps, il sera plus emmerdé, tout ce que tu veux. Mais
J'allais te dire le contraire aussi. Peut-être que ce joueur-là, si tu le montes d'un niveau avec des joueurs qui en plus autour de lui sont meilleurs ou se déplacent mieux, etc.
Autre élément, s'il est entouré différemment. Nous. Mais bon, là, prenons-le là, parce que moi, je te parle des équipes entre 8 et 20 en Ligue 1. D'abord, toutes les équipes n'ont pas un mec comme ça. Mm-hmm. Mais lui, en fait, ça saute tellement aux yeux que je dis, mais donc ça veut dire qu'il y en a pas en France des mecs comme ça?
Bah c'est pour ça.
Il y a plus de mecs comme ça, un peu meneur de jeu.
Ces mecs-là, tu veux que je te dise, ces mecs-là, ils restent quand ils sont arrivés à ce niveau-là dans ces équipes-là, ils restent pas. Ils valent 10, 12, 13 millions.
Aussi parce que comme le football,
ils partent parce que des clubs étrangers les achètent et donc ils peuvent pas rester.
Je sais même pas parce que comme le foot a changé et maintenant beaucoup basé sur vitesse physique. En fait, ils dénotent dans une équipe de Ligue 1. Et donc, souvent, les entraîneurs ne les mettent même pas. Parce qu'en fait, ils sont différents des autres et ne rentrent pas dans le cadre du jeu.
Oh, quand t'as un garçon de la qualité de Mollet, il joue, le mec, hein, quand même.
Mollet joue. Alors qu'à Liénard, par exemple, excusez-moi de parler de Strasbourg deux secondes, mais Liénard, il a une vraie qualité sur le coup de pied arrêté.
Oui, sur des coups de pied. Là, on parle d'un pied, pas que sur le coup de pied arrêté.
Justement, j'en viens à ça, c'est que lui,
oui, il a une vraie qualité de frappe.
Lui, tu lui donnes un coup franc, excentré, que genre.
Voilà.
Il va chercher une zone, il va la mettre là et tout. Chaque ballon sera dangereux.
T'as jamais un coup de pied arrêté mal tiré. En revanche, dans le jeu, il a moins d'influence. Du coup, il est sur le banc.
Mais parce que c'est pas du tout la même chose. T'as une notion de vitesse dans l'action qui n'existe pas sur coup de pied arrêté, qui existe dans le jeu, donc il faut s'adapter.
Mais bon, dans le football 3.0 que souhaitent tous les adeptes de la VAR, on aura bientôt droit à tous les changements qu'on veut. Donc tu pourras faire rentrer un mec pour tirer les coups francs.
Oh, ce serait triste. Oh non, j'espère qu'on n'arrivera pas là à ça quand même.
Bon bref, jingle du gros pour parler de Reims.
Non, on n'est pas obligé, on l'avait déjà mis. Tu veux pas m'humilier une seconde fois quand même.
Ah bon, d'accord. Alors vas-y.
Avec un opinion.
On t'écoute donc.
Non, j'avais envie de parler du stade de Reims parce qu'il le mérite tout simplement. Alors le titre est un petit peu extrême quand même. Merci Arthur.
Il a mis Reims un exemple.
Ouais, il a voulu attirer le chaland Arthur, mais non, c'est pas un exemple pour toute la Ligue 1 bien entendu. Il y a des équipes qui ont aussi de la qualité et qui s'en sortent autrement. Et avec d'autres méthodes que le stade de Reims, mais quand même, il y en a certaines qui pourraient s'en inspirer, notamment certaines qui ont des plus gros budgets que Reims et qui se structurent pas du tout pareil. Alors je vais pas vous dire que Reims est la meilleure équipe de Ligue 1, sinon vous allez me répondre de toute manière qu'ils ont aussi beaucoup de réussite ou que ça va craquer ou que dans la durée est-ce que le plus dur va pas être de confirmer, etc. Je suis très bien à Paris.
Des caisses à commander pour Noël.
Non plus. Non, ça fait très longtemps que j'ai des bons plans pour ça. Non, tu vois, j'ai même pas besoin de la vie tranchée. Non. Et vous allez peut-être me dire aussi que finalement c'est peut-être un feu de paille, sauf que, alors un, sur le terrain je sens pas ça, et deux, pour connaître un petit peu ce qui se passe dans ce club en termes de restructuration depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, il y a beaucoup de signes qui me font penser que le stade de Reims est vraiment sur des bons rails. Alors il peut tout se passer, mais dans la restructuration du club, déjà, il y a des choses que peut-être les gens ne perçoivent pas ou ne savent pas, mais qui sont bien réelles et très importantes dans un club de cette taille-là. C'est un centre d'entraînement qui est sorti de terre très joli. C'est-à-dire que c'est un des plus grands centres d'entraînement de France, avec 4000 mètres carrés de bâtiment, 16 terrains pour vous.
16 terrains.
16 terrains.
C'est un peu d'avoir 16 terrains.
Bah ça sert pour tout ton centre de formation, pour tes pros, t'as en permanence des bons terrains, t'es pas obligé parfois l'hiver de ménager des terrains et d'aller sur le synthétique pendant 2, 3, 4 séances et du coup de gâcher un peu, de perdre en qualité d'entraînement. Ce sont que des détails, Gilbert, mais ce sont que des détails qui, mis bout à bout à un moment donné, font peut-être que Reims est ici au lieu d'être à la 12e ou la 13e place.
C'est que des détails bout à bout qui font que le PSG y arrive pas en Ligue des Champions.
Bah le PSG pour l'instant n'a pas 16 terrains. Ah bah non, t'en as deux. Donc tu vois, non mais alors deux pour l'équipe première. Oui, mais même le centre de formation actuellement, Gilbert, au Paris Saint-Germain, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors ça va changer. Il va y en avoir un très très beau qui va sortir de terre, mais c'est pas ça. Il y a un groupe qui est construit, un groupe Pro 2, ce qu'on appelle Pro 2, qui est construit depuis un petit moment et qui se situe qui a les mêmes conditions que le groupe Pro, mais où t'as des garçons qui sont un peu entre les deux, entre la réserve et les pros. Là où souvent des jeunes pros se perdent un petit peu parce qu'ils n'ont pas encore accès à la Ligue 1, parce que c'est trop dur pour eux, ou parce qu'ils n'ont pas les bons codes dans le travail, etc. Et parfois parce qu'ils végètent du coup en réserve et qu'ils ont plus envie d'ailleurs, etc. Là, t'as un groupe qui est formé avec ça et qui est très important. C'est pas un schéma de club classique également dans la structuration au niveau du personnel. T'as des coachs, je parle aussi de la formation, bien sûr, et en termes de pro avec leur staff, qui font des choix au niveau du sportif, qui les indiquent, en tout cas, qui les donnent à une cellule de recrutement très active, qui travaille énormément pour les connaître un petit peu. Ça travaille beaucoup, et notamment sur l'étranger. C'est pas un hasard si on voit plusieurs profils qui arrivent aujourd'hui au stade de Reims. T'as pas de directeur sportif comme 90% des clubs, donc t'as pas de filtre entre la cellule de recrutement et le staff et le coach des pros. C'est un dialogue en direct, et tu as un directeur général qui travaille aussi énormément, Mathieu Lacour, qui est là pour chapeauter le tout et pour donner la faisabilité de la chose sur le plan économique, financier, ce que vous l'administratif, etc. Ça peut paraître encore une fois un détail, sauf que dans la structuration de ce club, ça n'en est pas un, et tout depuis 2 ans et demi avance très très vite grâce à ça. Et ça, forcément, ça a des conséquences. La partie immergée que nous on voit sur le terrain aujourd'hui, sur les résultats du Stade de Reims. Alors sur la façon tactique d'aborder cette saison de Ligue 1, c'est pas juste un bloc bas pour jouer bloc bas. Non, c'est un bloc bas avec des vrais principes de. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ceux qui aiment ça vont aimer, avec des recherches de zones où t'as la supériorité numérique même dans ton camp pour récupérer le ballon. Et à la récupération du ballon, on le voit cette année, la progression de Reims à la récupération du ballon, c'est assez phénoménal. Ce qu'ils faisaient au début de saison et ce qu'ils font aujourd'hui, les joueurs ont énormément progressé. Pourtant, on parle pas des meilleurs joueurs de Ligue 1 au début de saison au Stade de Reims, mais on parle aujourd'hui de 3-4 joueurs qui sont en train de devenir à leur poste des joueurs bankable en Ligue 1. On peut parler d'un Houdin, on peut parler d'un Zeleny qui vient d'arriver, on peut parler d'autres joueurs, Abdelhamid derrière qui fait une vraie bonne saison, etc. Même un Romao qui avait un peu disparu, alors même s'il avait disparu parce qu'il était parti à l'Olympiakos, mais qui avait un peu cette image de joueur de Ligue 1. Il fait une vraie saison au milieu de
Rose, genre de gala.
Ouais, non, mais t'as des vraies réussites.
C'est très cohérent tactiquement.
C'est très cohérent tactiquement.
Ça se tient un truc, quoi.
Alors, c'est très cohérent tactiquement, et du coup, individuellement, tout le monde progresse énormément. Et c'est là que le club en retire quelque chose. C'est un des résultats. Deux, une valeur économique prise par les joueurs. Et tout ça, ça donne quelque chose qui, à mon avis, va pouvoir pérenniser le club en Ligue 1. Donc à la base, il y a une restructuration vraiment de tout le club, centre de formation, équipe professionnelle, vision des choses, jusque dans la façon de voir les choses. Pas de directeur sportif, il y a pas beaucoup de clubs en France qui n'en ont pas. Honnêtement, je faudrait que je réfléchisse réellement, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un autre. Peut-être Rennes. Où Olivier Létang gère avec son coach, si je me trompe pas. Strasbourg également, t'as raison. Voilà, et c'est les cellules de recrutement qui sont très actives et qui bossent énormément, et t'as pas ce filtre. Alors je dis pas qu'il y en a qui fonctionnent très bien avec un directeur sportif. Hein. Ouais, même si oui, t'as raison, Saint-Étienne peut-être.
Lyon.
Lyon,
fait, ouais. Quand même.
Non, bah ouais, bah enfin sur 20 clubs, si t'en as 5, oui. c'est déjà 5, mais enfin il t'en reste 15, quoi. Donc je suis peut-être large avec 90%, mais t'es pas loin des 80%. Alors on réfléchira si tu veux, mais il y en a beaucoup plus qui fonctionnent avec des directeurs sportifs. Donc voilà, je voulais mettre ça en avant et pas minimiser ce que fait Reims en ce moment, surtout dans une période où en 2019, voilà, c'est les seuls qui sont invaincus. C'est pour moi tout sauf un hasard, voilà.
Daniel, tu vas
rajouter. Je voudrais citer un jeune auditeur, Gaëtan Flippo, qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours, justement pour parler de Reims. Franchement, un mail mais ultra détaillé sur la saison des Rémois. C'est rare que je reçoive des choses aussi intéressantes et précises. Donc il parle comme toi effectivement de la cohérence tactique. Il ajoute que selon lui, jamais il s'est dit en regardant les matchs de Reims qu'il a tous eu que cette année que l'équipe adverse avait fait un bon match. Ouais, donc c'est plus une équipe qui empêche l'autre,
parce que c'est dur à jouer,
de bien jouer. Il dit seule exception de l'improbable match contre Amiens au tout début de la saison, qui est en tout début de saison, qui dit qu'il, oui, en gros, compte pas parce que
ils avaient pris une volée, je crois.
Il dit bloque souvent très bas, ça tu l'as dit, avec des prises à deux. Il dit toute proportion gardée en style, c'est un peu l'Atlético Madrid.
Ouais,
ce qu'ils font.
Oui, ça rappelle ça effectivement.
Il y a des joueurs expérimentés à chaque ligne, donc tu as cité Abdelhamid, oui, Romao au milieu et Chavaria en attaque. Et des jeunes qui se révèlent, tu as cité Houdin, Chavalerine notamment.
Il y a eu d'autres bons coups, hein. Conan, c'est un bon coup, Engels qui vient de Belgique, c'est un bon coup, il y en a pas mal, hein.
Et ça compte aussi beaucoup au niveau effort physique, je veux dire par là de générosité et de course Il dit que c'est assez impressionnant, que c'est énorme, et que par exemple un joueur comme Chavelrin, c'est Chavelrin ou Chavelrin qu'on dit Chavelrin.
Chavelrin.
Ouais. Non, mais quand on le lit comme ça, on dit que c'est
un. Il est pas uruguayen, il est français.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà. C'est un mec par exemple qui a une moyenne à plus de 12 km/h.
C'est un des joueurs du championnat qui court le plus.
Voilà.
Allez, on va accueillir Julien.
Le coach est totalement écouté pour ce qu'il a mis en place.
Oui, coach, on en parle assez peu d'ailleurs. Ouais. T'as même pas cité son nom d'ailleurs.
À chaque fois, je t'ai dit avec un coach et son staff. Mais oui, bien sûr, on parle de David Guillon.
Qui a des méthodes un peu originales et qui fonctionnent. Ouais. Julien est là au 32-16. Salut Julien.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Julien, supporter rémois, juste je précise avant que tu prennes la parole que le match est fini en Ligue 2, le Gazélec a définitivement battu Lens 1-0. Julien, on t'écoute, est-ce que tu es d'accord avec Pierre? Pierre, il a dressé un portrait dithyrambique de ton club, tu vas être d'accord?
Non, je peux pas être contre ce qu'il a dit, dans le sens où j'entendais parler de monsieur Lacour, qui d'ailleurs je connais assez bien depuis quelques années, et c'est quelqu'un effectivement qui dans la durée a fait un bon travail au niveau du stade par rapport au recrutement. J'entendais aussi le coup de Chavelrin qui court 12 km par match. Bon, le mec, on a l'impression qu'il a 4 poumons, faut dire la vérité.
Tu sais que quand David Guillon prend l'équipe pro, sa première volonté, c'est lui. C'est-à-dire, il te demande pas un truc de fou, il te demande ce joueur-là, quoi.
Oui, mais je me rappelle bien. Mais enfin voilà, le vrai taf qu'a fait Guillon, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de directeur sportif, ça lui laisse une certaine liberté aussi dans ses choix. Mais il y a aussi le fait qu'on a une vraie colonne vertébrale. On a, comme vous l'avez dit, des joueurs d'expérience qui sont à leur poste, qui tiennent bien la baraque. Et à côté de ça, on a quelques mecs à droite, à gauche, qui ont des fulgurances, qui d'un seul coup se révèlent comme des mecs comme Moudin, qu'on n'a pas énormément vu la saison la dernière, comme Zemeli qui arrive là depuis quelques mois et qui met le côté gauche. Enfin honnêtement, même des mecs comme Baba derrière qui arrivent comme ça, Tchalk, et qui d'un seul coup tiennent la baraque, ou Fauquet à droite. Honnêtement, faut dire la vérité, je pense que voilà, on n'a pas une équipe qui est exceptionnelle, mais en fait on a des joueurs qui sont concernés, qui sont dans le projet du stade et qui ont surtout envie. En fait, il y a une vraie envie et un vrai collectif, quoi.
Et tu sais que Zeleny, quand il arrive, en fait, le projet est pas qu'il soit performant tout de suite là maintenant. C'est ils le prennent là en hiver parce qu'ils ont l'idée de le faire bosser et s'adapter sur ces 5 mois qui restent pour qu'il soit prêt pour la saison prochaine. Sauf que c'est tellement bien fait, tellement bien jugé dans le scouting que ça marche tout de suite.
Julien, merci. Bon, là, c'est 6e. Tu les vois aller jusqu'où pour conclure?
J'aimerais bien qu'on reste à la 6e place. Après, ça va être compliqué. On a quelques gros matchs et puis les prétendants à l'Europe de notre côté ont des matchs un peu similaires aux nôtres. Si on reste 6e, ça serait bien, mais mon avis serait qu'on s'arrête au niveau des barrages et qu'on joue pas réellement l'Europa parce qu'on n'a pas encore, je pense, les reins assez solides.
Julien, écoute, merci. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, le DVD de la semaine d'RMC, le film Chacun pour tous, avec Jean-Pierre Darroussin, Michael Tac-Alfred et le Coréen Souk. Merci Julien, bonne soirée. Tac-Alfred, je l'entends à Reims.
J'ai cru.
Sacré Tac-Alfred.
Ah, j'y vais.
Dans quelques instants, Areola, Griezmann, Di Maria au programme de l'After et ensuite ce sera le drôle de l'âme juste après 23h. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, on est là, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, et il est là physiquement avec nous ce soir. Il a quitté Madrid, bon pas pour longtemps, hein, parce que bon, quand Fred n'est pas à Madrid, rien ne va plus. Que ce soit de la Plaza Mayor, c'est la Plaza Mayor.
Plaza hein. Mayor.
Plaza ouais. Mayor, au Real Madrid, en passant par le Metropolitano et puis bien sûr les fameuses
sorties. Les dépendances, Rayo Vallecano, Leganés, Retafe.
Il a bientôt joué la Ligue des Champions peut-être.
Bien sûr.
Donc voilà, donc il reste pas longtemps hors de Madrid. Ah non, j'ai prévu d'en parler avec Fred de Retafe après 23h.
J'ai taffé, moi.
Ils sont 4e, les gars.
Ils sont 4e. Et ce serait terrible. J'avais fait un avis tranché un soir.
Ah oui,
là, Chicos, déjà. Ce serait catastrophique pour Retafe d'être en Ligue des Champions.
Ça te fait quoi d'être en France, là?
J'ai pris mon béret. Tu vois, j'ai pris.
Il est son béret, le gars.
Et je vois que les gens. Moi, on me dit qu'en France, tout le monde a un béret et une baguette sous le bras.
Mais non, t'avais pas la baguette.
Tout seul, quoi.
C'est fini, la baguette. Enfin,
tu sais. Enfin, si je l'ai, enfin, j'expliquerai.
Tu sais que c'est la première fois qu'on se rencontre avec Fred.
C'est un grand moment.
Ah bon?
C'était pas vu.
Ouais.
C'était jamais vu.
Et ben moi je suis agréablement surpris.
Voilà. Ben moi aussi.
T'es beau.
Est-ce que tu as vu la je sais pas si en Espagne elle est passée, il y a une série très bonne qui est passée sur Arte, Il Miracolo, une série italienne, et le prêtre il te ressemble à mort. Pendant toute la série, je voyais le prêtre. Non, oui, très bonne série. Tu t'as pas vu le prêtre, Fred Hermel. Ouais. Bon, le prêtre est un peu bizarre, je te le dis tout de suite. Bon,
mais tu sais que moi, je vais à la messe et tout ça, donc.
Oui, mais là, il est un peu bizarre, ce prêtre. D'accord. Je te préviens. Mais il te ressemble à mort.
Bon, mais faudra que je regarde. Il miracolo?
Il miracolo.
Il miracolo.
Ouais, le miracle.
Le miracle.
Alors, si t'es là, c'est parce qu'on va parler de Griezmann dans quelques instants, dans les questions liées à notre football français là du jour. Mais d'abord, avant qu'on parle de Griezmann, deux petits trucs liés au match d'hier soir et à l'équipe de France. D'abord, liés au match d'hier soir. Est-ce que Mbappé a manqué de classe hier au moment du péno? Est-ce qu'il aurait dû laisser Di Maria, qui a été l'homme du match incontestablement pour tout le monde, peut-être marquer un triplé, ce qui n'a jamais été fait par un Parisien contre Marseille. On a vu que Di Maria était allé gentiment lui demander, voilà, que l'autre a rien voulu savoir, il l'a raté. Pierre, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, moi, je sais pas s'il a manqué de classe ou de jugement, mais en tout cas, il a manqué de quelque chose. Et c'est juste par rapport à une chose, c'est même pas pour le triplé, c'est par rapport au contenu du match de Di Maria. C'est-à-dire que hier, il y avait le match et il y avait Di Maria, qui était largement au-dessus de tout le monde. Et quand tu fais un match comme ça,
donc tu lui dis régale-toi jusqu'au bout.
Ben c'est ton match, c'est ta soirée. Fais le triplé et puis même s'il en avait marqué qu'un, fais le doublé. Et même s'il en avait pas marqué, t'es au-dessus du lot ce soir. C'est pour toi, c'est cadeau quoi. Mais bon après, est-ce que ça existe encore les cadeaux? Je sais pas.
Oui, ça existe.
Ouais.
Messi. Tant mieux. Messi le fait régulièrement.
Ouais, voilà.
Il l'a fait par exemple quand Luis Suarez était dans il y a deux ans était vraiment dans une mauvaise phase. Je sais plus exactement s'il y a deux ans ou il y a un an. Enfin bref. Ouais, il marquait pas, ben dès qu'il y a eu une occasion, Messi a cédé le penalty à Luis Suarez. Et
après aussi, dans ces circonstances-là, c'est des fois c'est dangereux. Ça veut presque dire.
Oui, bon, mais allez, il l'a fait aussi. Pour offrir un triplé.
Ouais, ça c'est.
Quand un joueur a été vraiment l'homme du match,
ouais. Bah,
non, il a été très bon, il n'a pas marqué.
En l'air. Mais oui.
Qui a fait deux ou trois passes décisives, il a cédé.
C'est du bon sens en fait.
Ouais, voilà. Après, il faut dire que je pense que ni l'un ni l'autre ne savait l'histoire de. Il n'y a pas de Parisien qui a fait un triplé.
Oui, non, je pense pas non.
En revanche. Ça, une fois qu'on met ça de côté, le reste, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, il faut jamais perdre une occasion d'être élégant.
Cristiano l'a aussi fait pour Mbappé pourrait l'être. Benzema,
ouais, il l'a déjà fait, ouais.
Bon, c'est tout, voilà. On peut penser que c'est un détail, mais enfin, peut-être que ça en est pas tant que ça.
Ce qu'on peut souligner, c'est que Di Maria, lui, a eu la bonne réaction. Il a jamais rien montré sur son visage, pas d'énervement, rien du tout. Il est reparti. Et ça, c'est très classe, par contre.
Alors, on va écouter Didier Deschamps. Écoutez-le, on lui a posé la question, Griezmann évidemment en Espagne est une méga star, est-ce qu'il estime que Griezmann est sous-coté en France? Réponse de Deschamps.
Certainement, mais c'est le... Je suis un peu plus âgé que lui, beaucoup plus âgé que lui, ça a toujours été le cas des joueurs français qui sont à l'étranger par rapport à la France en elle-même. Ceux qui sont là et qui jouent dans les clubs français, ils sont sous la lumière, mais
c'est faux, ça.
Antoine a réalisé une année dernière, une saison dernière de très très grande qualité.
C'est archi faux.
Parce qu'il dit certainement au début, hein, ça a été coupé, mais il dit.
Non, mais c'est faux. Les joueurs quand ils sont à l'étranger sont pas sous-cotés, bien au contraire. On a plutôt l'habitude nous en France de justement surcoter le mec qui joue dans un grand club. Après, le fait que Griezmann soit peut-être sous-coté, mais pas pour les arguments évoqués
c'est
par Deschamps.
De la visibilité,
ça c'est possible.
On le voit.
Ah, oui. Ça c'est possible.
Moi je pense que Griezmann.
C'est possible. Ouais. Alors, qu'il soit sous-coté, ça, enfin pas à mes yeux, parce que moi je le cote.
Sous-coté ou un déficit d'image?
Non, il dit sous-côté.
Il dit sous-côté.
Ouais. Alors, dans le sens où on reconnaît pas sa valeur.
Je ne sais pas par qui. Moi, je le cote tout à fait justement parce que pour moi, c'est un top joueur mondial.
Ouais.
J'ai pas de problème. Après, je ne sais pas qui il vise, à qui il s'adresse quand il dit il est sous-côté. Je ne sais pas. Je pense pas que Fred Hermel le sous-cote.
Ouais,
moi,
non,
j'estime pas le sous-côté. Vous, je sais pas. Je pense pas non plus. Est-ce que Deschamps estime
la question, c'est qui le sous-côte?
Ben, je ne sais pas.
Non, mais je crois, quand on dit ça, il explique pas. Je pense que les bonnes raisons, parce que c'est pas vrai qu'il est.
En tout cas, c'est pas pour les bonnes raisons.
Il est sous la lumière. Et on voit beaucoup la Liga en France, dans le monde.
Fred, l'Atlético, c'est en dessous du Real ou du Barça.
Oui, en termes de sunlight, oui.
Mais je pense. Ou de la Juve ou de Manchester United, et voilà.
Mais je pense que Griezmann est sous-côté, mais à cause de son jeu, parce que après être avoir été façonné par Simeone, c'est un joueur dont l'apport est beaucoup moins visible que d'autres. C'est-à-dire qu'il se sacrifie tellement pour le collectif.
Bah, comme l'équipe de France.
Il
a des caractéristiques qui sont moins visibles, qui sont moins plaisantes pour le grand public.
Voilà,
de toute manière.
Par exemple, moi, je me souviens de la Coupe du Monde.
S'il va au Barça ou s'il va au Real dans un club comme ça, t'inquiète que ses qualités, tu vas les voir parce qu'il sait tout faire.
Non, mais je dis pas qu'on les voit.
Il sait tout faire,
les gars. C'était à l'Atlético, donc c'est quelqu'un qui pourrait donner beaucoup plus. Bien sûr. Mais qui, bah, parce qu'il y a cet aspect ultra défensif.
Discipline et il y a autre chose à mettre en place.
Et quelque chose qui, il faut pas l'oublier, a été très utile pour que la France gagne la Coupe du Monde. Moi, personnellement, je pense que le meilleur joueur de la Coupe du Monde, pour moi, pour la France, c'était Antoine Griezmann.
Bah, bien
parce
sûr,
qu'il
moi
y a
aussi,
tout son travail obscur qu'il fait à l'Atlético. Bah,
lui est Kanté, on va dire.
Oui, voilà. Et ce sont pas les actions les plus.
Il y en a une autre qui ont été importantes.
Non, mais d'accord, mais si tu dois.
La défense centrale de l'équipe de France, moi, je la voyais pas à ce niveau-là. Elle a été essentielle aussi.
Mais en tant que, voilà, parce que tu parles d'un Messi, tu parles d'un Cristiano, tu parles du meilleur joueur d'une équipe. Griezmann a tout un travail, hors lumière, fait qu'il est moins coté, mais parce que c'est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est plus sophistiqué, voilà.
C'est sophistiqué, c'est plus obscur.
C'est un peu plus compliqué à comprendre.
Cherche pas quand il jouera avec Messi, Rakitic, peut-être que ça ira mieux.
Oui, mais il sera pas la star.
Oui, mais et en plus, messieurs, les qualités de Griezmann sont pas les mêmes qu'un Messi, etc. Non. C'est pas les. On en revient un petit peu à tout ce qui est très beau, et très spectaculaire.
Très technique, il peut tout faire, le mec. Il peut te faire frappe lucarne, peut te faire reprise de volée, ciseaux, dribble,
sur les dribbles, Antoine Griezmann, c'est pas un dribbleur comme Messi. C'est pas du tout le même profil.
On parle pas de le comparer à Messi, mais il est unique. Je te dis qu'il fait.
Antoine Griezmann, pour moi, il est bien meilleur.
En attaquant, il est top 5 mondial.
Oui, mais avec ses qualités, tu peux être top 5 mondial avec tes propres qualités qui sont pas les mêmes effectivement qu'un Messi par exemple.
Mais en plus c'est quelqu'un qui s'est vraiment fondu dans un collectif, parce que c'est un topic de dire ça, mais c'est vrai quoi. Et c'est vrai que parfois je sais que des gens aimeraient voir Griezmann dans une équipe plus joueuse pour pouvoir profiter de ses qualités.
Lui il adore ça, donc bon. Il paraît qu'il kiffe. Moi je suis pas sûr qu'il continue à kiffer très longtemps.
Évidemment, la déclaration de Deschamps était dans le cadre de l'équipe de France hein, puisque les Bleus se sont réunis ce matin.
Peut-être qu'il fait la vie à Barcelone un jour.
Premier match des Bleus vendredi face à la Moldavie. Dans quelques instants, les drôles de dames, Fred bien sûr, mais aussi Julien Laurent, Simone Rovera et David Lorto, le foot international.
Mais ils sont obligés à déménager à Barcelone, Fred.
C'est.
Genre, il y a une obligation, tu dois y aller.
Déménager à Barcelone
hein.
Bah non. Le centre du monde, c'est Madrid.
Préfère revenir à Lens. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot.